découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lepivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Vous avez choisi d'écouter Nutri Radio, merci beaucoup d'être avec nous, merci à tous de nous écouter. Si vous souhaitez aller plus loin, soutenir Nutri Radio, rendez-vous sur nutritv.fr, vous allez pouvoir retrouver des masterclass santé de référence, conçus, animés par des experts, ainsi que des émissions et des documentaires exclusifs. Une nouvelle masterclass est mise en ligne tous les 15 jours pour approfondir vos connaissances et rester surtout à la pointe de la santé intégrative. Bonjour Olivier Coudron.
Oui, bonjour Eubeline, bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, parfait.
Alors merci déjà à notre partenaire, Lepivitz, sans qui nous ne pourrions pas vous proposer ces contenus chaque semaine. Lepivitz, entreprise familiale belge spécialisée en micronutrition avec plus de 30 années d'expertise dans le développement de nutraceutiques. Alors aujourd'hui, docteur Coudron, pour poser le décor directement dans une approche de neuronutrition, comment définirez-vous le rôle du sucre dans le fonctionnement du cerveau ?
Essentiel, vital, indispensable, c'est vraiment la nourriture quasi exclusive du cerveau. Je dis quasi exclusive parce que dans les conditions normales, c'est la seule nourriture, c'est le seul nutriment que le cerveau, que les neurones utilisent pour fonctionner. Néanmoins, c'est vrai que dans des périodes de jeûne, par exemple, eh bien, on va utiliser parfois les corps cétoniques. Mais en dehors de ce contexte très particulier, c'est le sucre, le sucre, le sucre. Donc, c'est très important de comprendre le rôle de ce glucose, de la molécule de glucose dans l'alimentation, dans les fonctions cérébrales.
Alors concrètement, gros, oui. De quel type de sucre a-t-on vraiment besoin, réellement besoin ? Glucose uniquement, lactate ?
Voilà, voilà, uniquement le glucose. C'est la molécule pour laquelle on est équipé, qu'on est capable de transformer en énergie, et l'énergie après se transforme en fonction, la pensée, la mémoire, les comportements, voilà. Et donc, Ce glucose cérébral, il est tellement important que nous devons assurer en permanence la bonne quantité, mais ni trop, ni trop peu. Et c'est là que tout l'enjeu de la neuronutrition et de l'optimisation des fonctions cérébrales se joue. C'est-à-dire qu'il faudra éviter d'avoir un manque de glucose, hein, par exemple une hypoglycémie dans le sang, une baisse du taux de glucose circulant dans le sang. Eh bien, ça se traduira par moins de glucose apporté dans le cerveau. Et l'hypoglycémie se caractérise immédiatement dans les secondes qui suivent par des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, des troubles de la performance, des troubles du comportement. Et puis, si ça se prolonge, eh bien, un malaise neurologique. Donc ça, c'est le premier versant. Il faut du glucose. L'autre versant, on s'en doute un petit peu, c'est qu'un excès de glucose, un excès, une hyperglycémie, comme on le voit dans le diabète, eh bien, va bien sûr être régulé. Le cerveau va utiliser ce qu'il doit utiliser, mais cet excès de glucose, tout comme dans l'organisme, va créer des dégâts collatéraux, va créer de l'inflammation. Ça, c'est peut-être moins connu, mais également de la glycation, c'est-à-dire en fait la molécule de glucose va s'associer avec des acides aminés, avec des protéines, et créer des produits de Maillard, des produits glyqués. On connaît une molécule qui sert d'ailleurs de dosage, de témoin entre une protéine et le sucre, c'est l'hémoglobine glyquée. Eh bien, cette glycation, c'est un processus pathologique qui va entraîner un vieillissement neuronal, un vieillissement cérébral accéléré.
Donc, est-ce qu'on consomme
glucose,
trop
il faut un équilibre, ni trop ni trop peu, une bonne fonctionnalité.
Est-ce qu'en France, on consomme trop de sucre ?
Alors, exactement, Beline. Ça, c'est vraiment l'un des problèmes majeurs. C'est que si on regarde non plus du côté du cerveau et de ses besoins, mais des apports alimentaires, et là, c'est l'une des grandes dérives de l'alimentation moderne, c'est la surconsommation des différentes formes de glucides simples, rapides, et notamment tout ça, finalement, ça aboutit en grande partie à du glucose qui est apporté de façon excessive dans l'alimentation, puis bien sûr dans l'intestin, et ça va entraîner ce qu'on appelle un pic glycémique, c'est-à-dire qu'après le repas, par exemple, si on a mangé trop d'aliments riches en sucre simple ou des index glycémiques élevés, hein, c'est-à-dire que la digestibilité des molécules de sucre va vite passer dans le sang, eh bien on va avoir un pic, on va avoir une augmentation rapide de ce glucose dans le sang, hein, cette fois-ci, et on va se retrouver donc dans cette situation d'avoir des hauts et des bas, des montagnes russes. Alors, ça pourrait paraître anodin pour le cerveau puisqu'il va utiliser ce dont il a besoin, mais le problème, c'est que quand on a une hyperglycémie ou un pic glycémique avec une alimentation très sucrée, eh bien on va avoir en réponse une petite hypoglycémie réactionnelle. L'insuline, cette hormone clé de la régulation du sucre, va faire son travail, et c'est très bien. Elle va faire rentrer le glucose dans les cellules qui dépendent de l'insuline. Donc, c'est toutes les cellules musculaires, par exemple, les cellules graisseuses, le foie. Et c'est d'ailleurs intéressant de noter que le cerveau, globalement, très globalement, n'est pas insulino-dépendant. On n'a pas besoin d'insuline. C'est tellement vital, ce glucose, pour le cerveau, qu'on a trouvé des portes d'entrée tout à fait particulières. On appelle ça les portes d'entrée du glucose dans les cellules, ça s'appelle les GLUT. Hein, GLUT, c'est glucose transporteur, tout simplement, GLUT. Eh bien, certaines portes d'entrée, certaines boîtes aux lettres qui font rentrer le glucose, ce sont des boîtes aux lettres dépendant de l'insuline, mais dans le cerveau, on a des GLUT 1, des GLUT 3 qui sont indépendantes de l'insuline. C'est-à-dire que vraiment, on a tout prévu pour que le glucose rentre bien. Mais en effet, comme vous le disiez, Ambeline, si on mange trop de sucre, trop d'alimentation sucrée, trop de soda, trop de produits ultra transformés dans lesquels il y a beaucoup de sucre ajouté aujourd'hui, eh bien, on va avoir ces montagnes russes, on va avoir trop d'insuline périphérique. Et bien qu'elle ne soit pas indispensable pour le fonctionnement cérébral, eh bien, on décrit néanmoins des mécanismes qui sont assez proches de l'insulinorésistance ou du diabète. On appelle ça le diabète de type 3 pour certains. Alors, c'est pas un très bon terme, hein, mais les neurologues parfois utilisent ce terme de diabète de type 3. C'est une image pour expliquer que, eh bien, on a dans le cerveau, dans les cellules neuronales notamment, les cellules immunitaires du cerveau, les cellules gliales, des mécanismes assez proches de ce que l'on peut regarder, ce qu'on peut observer dans les tissus périphériques, une sorte de diabète.
Et le sucre invisible, enfin qu'on appelle invisible, représente une part importante, hein, de l'apport quotidien. Où se cache-t-il le plus, selon vous ?
Alors, il se cache le plus dans les aliments ultra transformés. Alors, il est invisible. Enfin, je pense que c'est à ça que vous faites allusion, le sucre invisible, celui qu'on ne repère pas simplement. Si on lit les étiquettes, on voit souvent sirop de maïs, sirop de glucose, fructose.
On ne sait pas trop ce que c'est finalement.
Pardon ?
On ne sait pas trop ce que c'est finalement.
Voilà, ce sont des termes qui ne sont pas simples. Quand on prend un produit industrialisé qui est clair, transparent, je dirais honnête, vrai, on voit de l'eau, de la farine, je ne sais pas, des œufs, et on voit du sucre. Alors, sucre de blanc ou sucre brut, peu importe, hein, ça reste du saccharose, donc finalement, il y aura dedans une molécule de glucose. Mais quand on voit sirop de fructose ou sirop amidon modifié, voilà, tous ces termes, derrière ces termes, eh bien, se cachent en effet des apports de glucides avec des index glycémiques très très variables et qui vont être en effet des sucres cachés. Alors, l'excès d'apport de sucre, c'est l'une des perturbations, je dirais, les plus importantes aujourd'hui. C'est l'une des batailles que mène l'OMS dans la santé publique. Et en neuronutrition, bien sûr, ça joue un rôle majeur et ça impacte beaucoup de fonctions. C'est méconnu, hein. Ce qui est d'ailleurs assez traître parce que j'ai commencé par dire le sucre, c'est important pour le cerveau. Donc ça, et c'est vrai, mais ça laisse entendre que, en fait, le sucre, c'est bon pour les performances. On a besoin de sucre pour penser juste. C'est tout à fait vrai. Mais l'excès de sucre altère de façon sournoise et à bas bruit le fonctionnement de certaines parties du cerveau. Et la première partie qui va être altérée, qui va être vulnérable à ces montagnes russes, c'est l'hippocampe. Ce sont les zones de la mémoire. Et très fréquemment, après 10, 15, 20 ans d'alimentation trop sucrée, avec ces fameux sucres cachés entre autres, eh bien, on commence à avoir des petits signes d'altération de la mémoire, et ça peut même être beaucoup plus tôt que 40 ou 50 ans. Des fois, c'est chez les jeunes enfants en période scolaire, eh bien, on a des troubles de l'apprentissage, des troubles de la mémoire. Et l'une des premières causes que l'on recherche en neuronutrition, c'est, tiens, est-ce qu'on n'est pas face à des comportements, des dérèglements de l'équilibre, de l'apport des sucres ou de la gestion des sucres?
On fait une petite pause et on continue évidemment de parler du sucre avec vous, docteur Coudray. À tout de suite.
Soutenez votre bien-être mental et votre cognition avec les compléments alimentaires LepiVits. LepiVits, votre laboratoire familial expert en nutraceutique, vous propose des produits Clean Label aux ingrédients brevetés et soutenus par la science. Recommandés par les professionnels de santé, nos compléments allient qualité et éco-responsabilité. Nourrissez votre esprit pour une cognition optimale avec LepiVits. Pour plus d'infos, rendez-vous en pharmacie ou sur lepivits.fr. Lepivits, votre allié pour un esprit clair et serein.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Et on continue évidemment sur Nutri Radio avec notre docteur Coudron. On continue à parler du sucre. Alors vous nous parlez que comme quoi c'était important pour le fonctionnement, mais pas que.
En effet, donc important, mais surtout ne pas en surconsommer. Et ça, c'est vraiment le problème majeur numéro un. Alors, le sucre, on l'aime bien. Et ça, c'est cette appétence, cette attirance vers le sucre, elle est complètement naturelle. Elle est archaïque depuis l'aube de l'humanité. On a, dans notre nature, finalement, prévu des récepteurs au goût sucré, vous le savez, sur la langue, entre autres, et ils génèrent une sorte de plaisir.
C'est un héritage évolutif, en fait.
C'est un très bon héritage évolutif, parce que si on n'avait pas eu ça, peut-être qu'on n'aurait pas recherché les aliments qui contiennent des glucides, c'est-à-dire les végétaux. Et en grande partie, on a besoin de ces végétaux pour notre flore, notre microbiote, notre alimentation énergétique. Et les glucides sont évidemment importants. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est exactement ce que vous pointiez tout à l'heure, c'est qu'on soit dans un environnement hyper palatable, hyper gustatif, avec une offre marketing tellement importante, que ça dépasse, l'offre dépasse les besoins et la demande, finalement. Et donc, on a une attirance ancienne et archaïque pour le sucre et une offre qui nous pousse un petit peu à manger plus de sucre.
Et comment le sucre active les circuits de la récompense? Parce que c'est vrai qu'on aime bien, par exemple, manger à la fin de la journée un petit carré de chocolat, tout ça, ça nous fait du bien, on se récompense de notre journée.
Alors, il y a plusieurs mécanismes très, très différents. Le premier, c'est que lorsqu'on prend un goût sucré, comme on le disait tout à l'heure, c'est dans notre signature biologique, une activation immédiate d'une satisfaction d'un besoin essentiel. On sait, ah, c'est bien, on a ce fameux glucose dont on a besoin. Et ça, c'est un niveau très, très ancien, très archaïque, très biologique du système nerveux central. Donc, il y a une satisfaction. Cette satisfaction, elle est renforcée par un deuxième circuit, qui est le circuit du plaisir. Alors, le sucre active des voies qui communiquent dans le cerveau, des voies de la récompense et du plaisir. Alors, ces voies sont des voies dopaminergiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on consomme du sucre, on produit de la dopamine dans certaines voies du cerveau, des voies striatales, nigrostriatales, qui vont nous procurer une satisfaction. On va avoir une libération de dopamine, et cette dopamine nous dit « Ah, c'est bien, c'est agréable, c'est du plaisir, en fait, la dopamine, en grande partie. » Et donc, quand on mange du sucre, ça appuie sur le petit bouton, on produit de la dopamine dans des zones émotionnelles, dans des zones de satisfaction, de plaisir. Là où ça devient pervers, si je puis dire, où ça dépasse cette notion de plaisir et de satisfaction, c'est quand on en consomme régulièrement beaucoup. Donc, on appuie sur le bouton, et cela va entraîner non plus l'activation des circuits du plaisir et de la récompense, mais les circuits, enfin le mécanisme plus exactement, de la dépendance.
Addiction au sucre, on peut dire ça? On parle d'addiction ou pas?
Oui, voilà, on est exactement dans les mêmes voies. C'est les mêmes processus neurobiochimiques que l'on trouve dans les addictions à d'autres substances, le tabac, l'alcool, la cocaïne. Ce sont les mêmes mécanismes. Alors, ça n'aboutit pas exactement au même aux mêmes mécanismes, aux mêmes effets. La différence, c'est que le sucre ne crée pas une toxicité au sens où, par exemple, la cocaïne peut le créer. Mais les mécanismes sont les mêmes. Notamment, lorsque je baisse ma quantité, eh bien, je vais ressentir une sensation désagréable de manque et envie d'y revenir. Et pour avoir ce plaisir, cette satisfaction, cette satisfaction, tout simplement, eh bien, j'ai vraiment besoin de sucre. Et là, on observe clairement aujourd'hui des comportements d'addiction au sucre. Je voudrais, s'il y a des auditeurs qui se reconnaissent, ce sont des gens qui ont vraiment besoin, mais vraiment besoin de manger du sucre, et ceci à tout moment de la journée. Ça, c'est important de noter cela, et ça différencie ce besoin addictif d'un autre type de besoin qui est compulsif. Si on a un peu le temps, je l'expliquerai dans quelques instants. L'addiction au sucre, c'est vraiment un processus comparable à certaines toxicomanies. Et les médecins ou les thérapeutes qui prennent en charge ces patients qui ont vraiment des addictions, qui consomment plusieurs centaines de grammes de sucre chaque jour, qui ont besoin d'en prendre toute la journée, doivent être accompagnés. C'est pas une question de volonté, c'est pas une mauvaise habitude. C'est vraiment une addiction, tout comme le tabagisme, comme l'alcool. Il faut donc un sevrage. Il faut se dire, tiens, voilà, j'ai ce problème, je connais les solutions. Il y a une période de 3 mois pour se sevrer petit à petit. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. On ne peut pas décider, tiens, hop, j'ai pris une bonne résolution, c'est le premier de l'an, je ne mange plus de sucre. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça.
Et puis ça va créer de la frustration sur tout ça.
Alors, ça va créer toute une cascade de syndromes qu'on appelle syndrome de manque. Mmh. Alors, dans le cas du sucre, en effet, c'est de la frustration, c'est de l'irritabilité, c'est aussi des baisses de performance cérébrale. Donc, c'est un ensemble de symptômes neuropsychologiques, en fait, qui vont être désagréables et qui font qu'évidemment, personne n'a envie de traverser cette zone d'ombre, de misère. Et donc, on y revient. Voilà. C'est donc difficile tout seul de se déshabituer, de se sevrer du sucre. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que avec un thérapeute qui est bien formé, bon, oui, on peut soutenir la dopamine, on va maintenir par d'autres approches les circuits du plaisir, on va trouver d'autres sources de satisfaction, ça c'est très important de trouver plein d'autres occasions et de mécanismes pour se faire plaisir, pour trouver des béquilles finalement, de trouver des solutions alternatives qui vont faire qu'on n'a pas absolument et uniquement besoin du sucre.
Et alors les substituts comme les édulcorants naturels, je parle de stevia, érythritol ou autres, est-ce que vous trouvez ça utile ou pas? Est-ce que le cerveau reconnaît vraiment l'absence de calories?
C'est une très bonne question et c'est très d'actualité. Alors l'OMS par exemple dit clairement aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les édulcorants. Alors depuis 2023, ça a été une prise de position très très claire avec la lecture de toutes les études. Mmh. Il n'y a pas de place pour les édulcorants dans une prise en charge des patients en surpoids, des patients en diabète de type 2. Premier état. Donc voilà, c'est quand même, ça repose sur des centaines d'études très très solides et vraiment indépendantes. De plus, lorsqu'on a ces édulcorants, ces faux sucres, ces édulcorants intenses, on a deux effets pervers. Le premier, de plus en plus suspecté, c'est des perturbations de l'équilibre du microbiote intestinal. Eh oui, et si on perturbe le microbiote, alors ça va avoir des effets pervers sur la régulation du diabète et du poids. Donc ça, c'est un petit peu l'effet pervers pour les personnes qui prennent ça alors qu'elles voudraient éviter le diabète et le surpoids. Mais le deuxième effet pervers qui m'intéresse ici, aujourd'hui, c'est que cela va perturber le fonctionnement et le dialogue entre l'intestin et le cerveau. Or, un microbiote en bonne santé, c'est indispensable pour réguler l'axe du stress, l'axe de l'humeur, même le vieillissement neurocognitif. Et donc, en prenant ces édulcorants, on mise pas sur les bons arguments. La bonne solution, c'est vraiment de se déshabituer du goût sucré. Alors, si je me permets de dire encore un petit mot, faut pas être diabolisé, parce que si l'on utilise ces édulcorants dans une véritable stratégie honnête, en disant « je le prends pendant 3 mois, 4 mois » pour éviter d'être trop frustré, pour me déshabituer du goût sucré, mais je joue le jeu de me déshabituer petit à petit. Je le fais pas en substitution sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, pourquoi pas? Mais il faut que ce soit vraiment dans une stratégie. Et c'est intéressant parce que la semaine dernière, il y a 3 publications en fait en Angleterre de sociétés entre guillemets, savante, société de nutrition, qui réhabilite un peu la place des édulcorants. Donc, je me dis, tiens, c'est curieux, je vais regarder ces études. Et en fait, ça a été surtout relayé par les industriels des édulcorants. Donc là, ils ne sont pas tout à fait neutres. Hein. Ouais. Alors, ils ont relayé ça vraiment en force de bruit hein, sur les réseaux sociaux, entre autres, sur les publications grand public, en disant, ben voilà, des sociétés nutritionnelles réhabilitent les édulcorants. Et c'était curieux. J'ai pris le temps comme de bien lire les prises de position de mes collègues scientifiques anglais. Et ce n'est pas du tout ça qu'ils disent. Hein. C'est plutôt, pourquoi pas, au pire, les utiliser ponctuellement dans le cadre d'une stratégie pour se sevrer du goût sucré. Parce que le cerveau, en effet, voilà. Quand on prend du goût sucré, c'est un leurre. Et finalement, il va se mettre à manger un petit peu plus de calories à côté. Mmh. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche.
Et alors, pour conclure, si vous ne deviez garder que trois conseils haute efficacité pour reconquérir un métabolisme du sucre sain, lequel serait-il ? Lesquels même ?
Alors, quel beau challenge ! Alors, déjà, pour conclure, ça me fait presque de la peine, parce que c'est tellement agréable d'être avec vous sur cette radio, que voilà, mais il faudra bien conclure. Alors, trois conseils, misère. Le premier, c'est vrai, choisir une alimentation plus authentique, plus vraie, plus végétale, parce qu'elle est à index glycémique faible. Si on choisit des index glycémiques, c'est juste fantastique, car on apporte la matière première dont on a besoin, mais elle sera absorbée lentement, régulièrement, et ça, c'est l'objectif numéro un. Donc, index glycémique faible. Je ne veux pas redire toutes les stratégies, mais c'est bien sûr des produits complets, c'est des fibres, etc. Deuxième conseil, comment activer les voies du plaisir autrement qu'en mangeant du sucre ? Eh bien, trouver des plaisirs dans la vie. Des plaisirs, ça peut être les étirements. Ça peut être prendre plaisir à avoir de la gratitude, de la reconnaissance pour le fait d'être en bonne santé si on l'est, ou être avec des amis qu'on aime. Ou voilà. Trouver des occasions et des prétextes presque d'être heureux, d'avoir des voies du plaisir, de déguster les aliments. Par exemple, un carré de chocolat noir à 75%, eh ben, ça peut être un vrai plaisir pour ceux qui aiment. Eh bien, on peut amplifier ce plaisir. Et le cerveau ne fera pas la différence. Et le troisième, ce serait d'avoir une alimentation prébiotique, hein, prendre soin du microbiote parce qu'il nous le rendra bien.
Merci beaucoup Olivier Coudron, docteur Coudron dans Neuronutrition. On va se retrouver la semaine prochaine et la semaine prochaine, on parlera de comportement et de neurotransmetteurs. À bientôt Olivier.
À bientôt.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.